Les parts actualités.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 24 octobre 2016. Clotilde Seille au micro de Canal M. Contente de vous retrouver pour ces paractualités. Alors, les titres aujourd'hui, Québec lance sa nouvelle politique de prévention en santé. Penser la ville pour les plus vulnérables. Fonds Aviva, les organismes inscrits s'activent. À Québec, un prof enseigne la batterie à des jeunes malentendants. À Moncton, on enquête sur la mort d'un homme en fauteuil tué par un train. Et puis, une jeune femme qui témoigne de la Syrie à l'Allemagne en fauteuil roulant. Et en France, Timéo, une comédie musicale qui donne des ailes au handicap. Également, deux entrevues aujourd'hui avec Doris Provencher, directrice générale de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Et également, Geneviève Genet, intervenante d'accueil et soutien pour l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels. La ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, a lancé dimanche la nouvelle politique gouvernementale de prévention en santé. Pour sa mise en œuvre, la ministre Charlebois a annoncé une enveloppe de 76,1 millions de dollars sur une décennie qui s'ajoutera aux 400 millions déjà prévus par le budget des saines habitudes de vie. La nouvelle politique vise à augmenter le nombre d'adolescents actifs tout en réduisant le nombre de fumeurs, ce qu'a applaudi la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Parmi les cible à atteindre d'ici 2025 figure également une hausse de 18% du nombre d'aînés qui reçoivent des soins à domicile, de même qu'un accroissement de 49% de l'offre de logements abordables, sociaux et communautaires. Plusieurs ministères ont collaboré à son élaboration afin d'harmoniser leurs interventions, dont ceux de l'environnement, de l'éducation et de l'occupation du territoire, une collégialité dont s'est réjouie la ministre Charlebois en entrevue à la presse canadienne. La ministre a également tenu à souligner l'approche inclusive de sa nouvelle politique. C'est en fait une politique qui s'adresse à tout le monde, a-t-elle déclaré, mais plus spécifiquement aux personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité. Ça peut être des personnes handicapées, des aînés. Ça couvre très large. Le plan d'action, qui doit pour sa part être dévoilé d'ici un an, précisera les mesures nécessaires à l'atteinte de ses objectifs. Il s'articulera notamment autour de l'accès à des installations pour l'activité physique, de la qualité des services de garde, du contrôle de la résistance aux antibiotiques ou encore du repérage des aînés en perte d'autonomie. Pensez la ville pour les plus vulnérables. Chaque année, plus de 50% des collisions mortelles qui ont lieu dans les rues de Montréal impliquent des piétons. Et sur ce nombre, une proportion importante compte des personnes âgées et des enfants, rappelant que certains usagers de la route sont encore plus vulnérables que d'autres. En raison du vieillissement marqué de la population qu'on observe depuis quelques années, les personnes de 65 ans et plus n'ont jamais été aussi nombreuses à marcher dans les rues du Québec. Et les aînés ne sont pas les seuls à être incommodés par des aménagements inadéquats. Les enfants aussi, avec leur petite taille et leur capacité d'attention plus courte, sont eux aussi particulièrement vulnérables dans la ville. Et il en va de même pour les personnes à mobilité réduite, que cette condition soit permanente ou temporaire en raison d'une blessure. Alors, pour mieux comprendre les défis et difficultés auxquels sont confrontés les piétons au quotidien, le Centre d'écologie urbaine de Montréal, qui fêtait ses 20 ans cette semaine, organise depuis quelques années déjà des marches exploratoires. Ces dernières, construites en fonction de thématiques particulières, invitent les citoyens, les professionnels de l'urbain et les élus à s'immerger le temps d'une promenade dans la réalité d'un piéton plus vulnérable. On va d'ailleurs revenir un petit peu plus tard à l'émission sur ces marches exploratoires. Elle est directrice générale de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Doris Provencher, bonjour.
Bonjour, Madame Seille.
Je suis ravie de vous parler parce que vous venez de lancer une campagne contre la réforme du curateur public. De quoi s'agit-il?
Exactement. Alors donc on vient de lancer parce qu'il y a un projet de loi qui a été déposé au mois de juin par le ministre de la Famille. Et à la lecture de ce projet de loi, je vous avoue que les bras nous sont tombés, le poil nous est venu raide. Bon, c'est vraiment pour nous c'est un projet de loi qui est dangereux et qui respecte pas du tout les droits des personnes qui sont dans les situations les plus vulnérables de notre société.
Et qu'est-ce que dit ce projet de loi-là, qui est le projet de loi 96, hein, c'est bien
Exactement.
Ça?
Exactement. Bien, ce projet de loi, c'est qu'il propose une réforme du curateur public. Sous les traits de la demande du gouvernement actuel, hein, vous savez qu'il demande à tous les organisations de diminuer leurs dépenses, ben le curateur public le bureau du curateur public a imaginé une façon de faire des éléments pour faciliter son travail, en tout cas répondre à la demande du gouvernement. Mm-hmm. Donc, ce qu'il propose, c'est, entre autres, c'est de donner de plus en plus de responsabilités aux familles, par exemple, ce qui peut être bien, mais des fois, c'est pas toujours la solution. Mm-hmm. Ce qu'il propose, entre autres, c'est, vous savez, le curateur public, au Québec, toute personne qui est sous un régime de protection, que ce soit privé ou public, doit et qui gère l'argent, par exemple, de quelqu'un, doit rendre des comptes au curateur public.
Excusez-moi de vous interrompre, madame, parce que justement, je suis contente que vous me parliez de ça. Parce que, très honnêtement, comme moi, je l'ignore à peu près dans sa globalité, je suis sûre que beaucoup de gens qui nous entendent sont dans le même cas que moi. À quoi ça sert, un curateur public?
OK. Le curateur public, là, sa mission, c'est vraiment le dernier rempart que la société québécoise s'est donnée pour protéger les personnes qui sont dans les situations les plus vulnérables. Bon. L'image qu'on en a, vous savez, c'est venu, vous savez, dans les années 30, 40 et 50, où on mettait des personnes dans les asiles psychiatriques et on les oubliait là pour le restant de leur vie. Ben, le Québec a dit en 45, ça suffit, ils ont mis en place un curateur public justement pour surveiller, pour aider ces personnes-là. En 90, il y avait eu une super réforme du curateur public qui vraiment mettait en place des régimes de protection plus souples pour aider les personnes, par exemple, à faire leur budget, à prendre soin d'elles. Donc, et qui allait vraiment dans le sens du respect des droits des personnes. Le curateur, là, c'est quand je n'ai plus rien et quand je suis le plus démuni, il me reste ce curateur-là qui, en principe, va me protéger.
Bon, et là, si je vous comprends bien, ce projet de loi 96 va modifier, en quelque sorte, le pouvoir, entre guillemets, du curateur public en matière de protection des personnes. Est-ce que c'est bien ça?
La lecture que nous, on en fait, c'est que le protecteur se déleste de certains de ses pouvoirs et pour nous, c'est inacceptable.
D'accord. Pour donner, entre autres, aux familles ou autres la possibilité...
Bien sûr que de travailler avec les familles, quand c'est possible, on en est. Mais là, ils se mettent une règle. C'est comme on pousse vers ça de plus en plus. Mm-hmm. Et déjà qu'il n'y a pas assez de curateurs délégués, qu'on appelle donc les gens qui travaillent à la curatelle publique, ils ont des personnes, et il n'y a même pas assez actuellement de curateurs publics pour aider les personnes. Quand moi, je vis à Gatineau puis que mon curateur est à Saint-Jérôme, je le vois pas souvent, vous savez.
C'est clair.
J'ai bien de la misère à le rejoindre. Mm-hmm. Alors déjà, plutôt que le curateur public se lève debout et demande au gouvernement, moi, j'ai besoin de plus de monde pour aider les plus démunis, non, il dit, OK, et il faut que je coupe, voici ce que je vous propose. Oui. Et c'est ça qui est inacceptable aussi.
Alors, en ce moment, ce que vous êtes en train de monter, vous avez envoyé une lettre. Qu'est-ce que vous avez fait pour...
Bon, Donc, écoutez, on a en principe, il devrait y avoir une commission parlementaire. Oui. Hein? On n'a pas toujours la date, on vérifie à tous les jours, mais on va de l'avant quand même. On a fait un mémoire et on a fait une lettre. Alors, si qu'on a envoyé, évidemment, au ministre de la Famille et aux députés des autres partis de qui relève ce dossier, et on demande aux gens, aux organisations, s'il y a des personnes qui veulent, donc on fait une lettre, vraiment, pour signifier, pour que la population, pour que les organisations signifient au ministre de la Famille et à ce gouvernement-là que là, il dépasse les bornes.
Les bornes, oui.
Oui, là, il va trop loin. Mm-hmm. On parle des plus démunis de notre société.
Oui, oui.
Ça suffit.
Et on parle de gens qu'on voit d'ailleurs... moi, j'habite à Montréal et on en voit de plus en plus, hein, de gens qu'on a l'impression qu'ils sont complètement perdus et qui n'ont pas d'aide.
Exact. Et
la seule aide qu'ils ont, c'est la police. mais c'est terrible.
Effectivement. Hein? Bon, ça aussi, c'est d'autres... Bon. Je pense que... on aurait besoin de plus de services.
Oui.
Je suis bien d'accord avec vous.
Oui.
Mais voyez, juste un exemple.
Oui.
Vous savez, maintenant, quand je, par exemple, je suis tuteur de ma sœur, je dois rendre des comptes financiers.
Mm-hmm.
Et ce que le projet de loi propose, ben, si le patrimoine de la personne est en bas de 25 000 $ je n'aurais pas besoin de rendre des comptes.
Mais oui.
Alors, même si j'ai 9 000 $ de revenus par année, je peux me faire exploiter, hein?
Absolument.
Alors là, le curateur, il n'y aura même plus le curateur pour surveiller ça.
Ouf.
Vous voyez? C'est ça le projet de loi.
C'est ça.
C'est ça qu'il nous propose, le gouvernement actuel.
Bon, écoutez, Madame Provencher, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse peut-être se reparler pour voir un petit peu ce qu'il va advenir de ce projet de loi-là, parce que nous comprenons ici à Canal M votre inquiétude. C'est
clair. Oui, ben je vous remercie. Puis, si jamais que des gens veulent prendre connaissance, c'est sur notre site Internet.
Alors, et le site, on ne va pas le donner tout de suite parce que c'est... Bon, ben, en fait, c'est AGI de Trait d'Union SMQ.
Hein. SMQ.
C'est ça.
Vous allez tomber sur notre site.
Et nous, on va le donner sur notre propre site, madame. Comme ça,
ben,
ils vont...
Je vous remercie beaucoup. Hein,
mais je vous en prie.
De passer notre message. Merci beaucoup.
Ça nous fait plaisir, Madame Provencher. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Les organismes estriens inscrits au concours pan-canadien du Fonds communautaire Aviva s'activent à une semaine de la fin des votes. Vous aurez compris que nous sommes passés aux actualités régionales. La maison Aube-Lumière, qui présente un projet de jardin thérapeutique, demeure en tête pour être finaliste en vue de l'obtention d'un prix de 100 000 $ pour sa réalisation. Figure que 5 projets estriens figurent parmi les 453 enquêtes d'appui un peu partout au pays. Il y a un projet à la ville de Magog, le centre de prévention du suicide aussi de Sherbrooke, les habitations Estia à Coaticook et puis aussi le projet JOIA, G-I-O-I-A proposé par la docteure Marie-Josée Dubois qui veut permettre à des enfants, adolescents et jeunes adultes atteints d'une maladie grave ou incurable dont certaines orphelines d'accéder à un apprentissage par l'expérience en pleine nature ainsi que d'y recevoir des soins pour la globalité de leur santé. Rappelons que le projet de jardin thérapeutique à la maison Aube-Lumière de Sherbrooke s'est rapidement inscrit au rang des favoris du concours. La maison de soins palliatifs qui espère toucher 100 000 $ avec ce concours qui lui permettrait d'aménager des jardins pour améliorer la qualité de vie des patients et des proches qui le visitent. Il s'appelle Christian Morissette, il vit à Québec, il est batteur, il est enseignant et c'est surtout un passionné de musique et de batterie. La musique est une question de plaisir pour M. Morissette, un plaisir qu'il partage sur scène et dans des cours particuliers, dont auprès de jeunes malentendants. Enseigner aux élèves atteints de surdité, c'est une expérience de vie, quant à moi, qui est extraordinaire, commente le musicien. Ça montre à quel point ces jeunes-là, que malgré un handicap majeur, ils sont capables de faire de la musique. Alors, il s'appelle Christian Morissette. J'imagine que si vous tapez Christian Morissette batterie à Québec, eh bien, vous devriez très facilement pouvoir contacter ce monsieur. Alors, je dois avoir au bout du fil Geneviève Genet, qui est intervenante accueil et soutien pour l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, autrement dit l'ACPEV. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va bien, merci, vous.
Merci beaucoup, Geneviève. Donc, je viens de le dire à l'instant, vous êtes intervenante, accueil et soutien à l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels. Vous allez nous présenter, entre autres, une journée d'échange qui va avoir lieu le samedi 12 novembre 2016 à l'Hôtel Sandman à Longueuil.
Oui.
Parlez-nous de cette journée-là. Quels sont les objectifs de cette journée-là?
Bien, l'objectif principal, c'est une des trois activités familiales provinciales qu'on fait à chaque année.
Mm-hmm.
Donc, c'est l'activité de l'automne. Le but, c'est une journée d'échange pour les parents. Donc, on rassemble les parents des différentes régions du Québec. Il y a aussi des intervenants qui peuvent venir, des grands-parents, des proches, toute personne qui est interpellée par les conférences, par les informations qu'on donne. Pour les parents, cette journée-là, il y a des kiosques le matin, il y a des conférences et il y a des activités pour leurs enfants. Donc, on a une halte-garderie avec des éducatrices spécialisées pour les enfants 0-5 ans, avec un bon ratio d'accompagnement selon les besoins des enfants, incluant la fratrie aussi.
Oui.
Et on a des activités, une sortie pour les jeunes de 6 ans et plus, encore une fois pour l'enfant qui a une déficience visuelle et les frères et sœurs, et puis c'est accompagné par les moniteurs de la Fondation des aveugles du Québec.
Autrement dit, tout le monde peut s'y inscrire, c'est-à-dire tous ceux qui sont soit atteints, soit qui vivent autour d'enfants comme ça, peuvent s'inscrire, c'est ça?
Tout à fait, exactement.
D'accord.
C'est ouvert à tous, on a des forfaits selon si c'est des parents membres actifs ou on a des forfaits non-membres, on a même des forfaits membres de soutien, organismes membres, donc c'est vraiment ouvert à tous, puis chaque personne peut s'inscrire selon ses besoins. Puis, on peut même inclure dans nos activités, c'est important de le mentionner, les enfants multi-handicapés. De plus en plus, on en a des familles d'enfants qui ont d'autres déficiences associées, parfois des besoins physiques importants. Donc, à ce moment-là, on va offrir l'accompagnement nécessaire aussi. On a des éducatrices spécialisées qui peuvent accompagner l'enfant à l'activité des jeunes, puis qui va être en soutien en un pour un avec l'enfant.
Quel genre de conférence y aura-t-il là? Quel type de kiosque également? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver et entendre?
Oui, au niveau des kiosques, on a plusieurs invités. On a la Fondation des aveugles du Québec, notre grand partenaire. On a l'Association sportive des aveugles du Québec. On a INCA Division Québec.
Mm-hmm.
On a les ressources de la bibliothèque de l'école Jacques Ouellette. On a aussi Parc 4 Sens qui va venir présenter des outils pédagogiques en trois dimensions pour les élèves non-voyants. Et Musique au Max, une école de musique inclusive, Ludociel pour tous, Finhandicap avec le régime enregistré d'épargne invalidité REI.
Oui.
On a aussi l'Office des personnes handicapées du Québec et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui vont venir comme kiosque le matin. Puis comme présentation, on a premièrement les habiletés sociales au secours de l'intimidation. Donc comment prévenir l'intimidation chez les jeunes avec Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, auteure et blogueuse. Puis en deuxième présentation, l'après-midi, on va avoir la cécité ou la baisse de vision est-elle réellement un obstacle à notre bonheur avec Marie-Ève Létourneau, qui est une jeune dont les parents sont membres de l'ACPIF depuis plusieurs années.
D'accord.
Une jeune femme de 16 ans, étudiante au secondaire, qui va venir nous parler par son expérience personnelle. Elle a un message à passer aux parents, un message positif.
Eh bien, dites donc, mais c'est complet. C'est là qu'on s'aperçoit que ça grouille comme ça d'organismes qui bougent, qui font des choses. Moi, à chaque fois, ça me sidère parce que Dieu sait si on les connaît bien ici et on en découvre encore et toujours et toujours et toujours.
Oui.
Quel sera le prochain événement de l'ACPEV après cette journée du samedi 12 novembre? Est-ce que vous avez déjà quelque chose en vue?
Oui. Pour le 12 novembre, la date limite d'inscription est ce vendredi, le 28 octobre.
Vous avez raison.
Pour la prochaine rencontre familiale annuelle, ça va être le samedi 28 janvier à l'hôtel Clarion Québec à Sainte-Foy. La date est déjà bookée. Les inscriptions vont se faire avant le 13 janvier. Donc, dès la fin novembre, début décembre, les gens peuvent s'inscrire. Et puis, la prochaine rencontre familiale annuelle qui va se faire le 3 juin 2017, ça va être à Sainte-Adèle, à l'hôtel Mont-Gabriel.
OK.
Puis, c'est ça pour le moment, les deux, trois prochaines activités.
Il nous reste une petite minute. J'aimerais bien que vous nous reprécisiez un petit peu, si des fois il y avait des gens qui l'ignoraient, la mission et les services offerts par l'ACPEV.
Oui, bien, l'ACPEV, c'est vraiment, comme je disais au début, de regrouper les parents rassemblés au niveau provincial. Donc, on a des membres de toutes les régions du Québec, d'offrir à ces parents-là un réseau d'entraide. Donc, on a des par nos activités, par nos publications. On a un répertoire des membres aussi par lequel les gens peuvent se bâtir un réseau de soutien. On a des groupes d'entraide pour les parents. On en a un à Québec, à Longueuil. On est en train d'en faire un en Outaouais. On en a un dans les Laurentides. Puis, selon la demande et les besoins des familles, on peut en partir des nouveaux dans leur région. Puis on a aussi notre service téléphonique d'aide, soutien, référence. Donc les gens m'appellent, je suis intervenante sociale de formation, donc je peux les guider vers les ressources appropriées, les accompagner dans leur démarche, faire une recherche d'informations pour eux. Donc ça, c'est aussi important pour les familles.
Geneviève Genet, on aura l'occasion de se reparler ici sur les ondes, c'est sûr, mais en attendant, je voudrais rappeler aux gens que cela intéresse que pour s'inscrire à cette journée qui aura lieu le samedi 12 novembre, à l'hôtel Sandman à Longueuil, il faut s'inscrire à tout prix avant le 28 octobre. Et ça, il suffit d'aller sur le site de l'ACPEV. Et encore là, toutes les informations vont se retrouver sur notre propre site pour que les gens puissent trouver ça très facilement.
Parfait.
Merci beaucoup, Geneviève Genet.
Merci à vous.
Au revoir, bonne
journée. Bonne journée, au revoir.
Actualité nationale, le BST enquête à Moncton sur la mort d'un homme en fauteuil roulant tué par un train. Une équipe du Bureau de la sécurité des transports a effectué des tests mercredi sur le site d'une collision mortelle impliquant un fauteuil roulant et une personne handicapée et un train. C'était à la fin du mois de juillet à Moncton. Des employés du Bureau de la sécurité des transports ont mené ces tests sur un passage à niveau en plein centre-ville de Moncton mercredi afin de mieux comprendre comment cet homme en fauteuil roulant a pu être happé mortellement par un train cet été. Il était âgé de 29 ans. Il se déplaçait en fauteuil roulant au centre-ville dans la nuit du 26 au 27 juillet. Il était 1h45 lorsqu'il a été percuté par un train de marchandises du CN près de l'intersection des rues Robinson et Queen. Une femme portant un gilet du BST a conduit elle-même un fauteuil roulant électrique à différents angles sur le passage à niveau. Et lors d'un des passages, les roues du fauteuil se sont coincées dans les roches à côté des rails, ce qui laisse penser, comme le disaient d'ailleurs des gens proches de la victime, que malheureusement, c'est un passage à niveau qu'ils considèrent dangereux, notamment pour les personnes en fauteuil roulant. J'imagine que tout cela va être réparé, mais malheureusement, il aura fallu la mort d'un homme de 29 ans. De la Syrie à l'Allemagne en fauteuil roulant. Elle a parcouru les 2000 kilomètres entre Alep et l'Allemagne en servant de traductrice aux autres réfugiés grâce à l'anglais appris en regardant une série américaine. C'est une Syrienne, elle s'appelle Nujin Mustafa. Elle n'en est pas à un défi près. Elle vit maintenant en sécurité à Cologne, cette jeune fille de 17 ans qui s'est fixé un nouvel objectif, prouver que la chancelière Angela Merkel était dans le vrai. En ouvrant son pays aux réfugiés en 2015, année au cours de laquelle 890 000 d'entre eux sont arrivés. « Nous allons faire de notre mieux pour prouver à tout le monde que l'Allemagne avait raison depuis le début », assure-t-elle à l'AFP lors d'une entrevue par Skype depuis l'appartement qu'elle partage avec ses deux sœurs. Son histoire est si remarquable que même la jeune pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix, la considère comme une source d'inspiration. Elle dit que je suis son héroïne, ce qui est un peu bizarre pour moi parce que c'est elle qui a montré que les jeunes filles peuvent changer le monde, s'étonne Nujin. Elle est atteinte d'infirmité motrice cérébrale, cette jeune Syrienne qui relate son difficile périple jusqu'à l'Europe dans des mémoires émouvants. Coécrit avec la journaliste britannique Christina Lamb. Cet ouvrage qu'elle a présenté jeudi à la Foire du Livre de Francfort est une tentative de donner un visage humain à la vague de réfugiés en Europe. Les gens pensent à la crise syrienne comme à quelque chose qui se passe très loin d'eux et dont ils ne devraient pas s'occuper, regrette-t-elle. J'espère que ce livre aura un impact sur au moins une personne. Simplement intitulé « Nujin », l'ouvrage commence au premier jour de la guerre en Syrie et raconte l'escalade de la violence jusqu'à ce que la famille se voit obligée de partir. « Pardonne-moi, Syrie », murmure la jeune fille en franchissant la frontière avec la Turquie. Trop âgée pour voyager, ses parents s'arrêtent là, laissant Nujin et ses sœurs partir pour l'Allemagne. L'adolescente détaille ensuite le terrifiant voyage en bateau jusqu'à la Grèce. À la barre, son oncle applique ce qu'il a appris sur YouTube, tandis qu'elle craint que les autres passagers ne veuillent jeter son fauteuil roulant par-dessus bord. Une fois à terre, ils doivent composer avec des passeurs malveillants, des camps de réfugiés surpeuplés et des frontières fermées. Mais il y a aussi des moments de solidarité, comme lorsque d'autres migrants aident Nujin à passer les obstacles en soulevant son fauteuil. Pour elle, qui sortait si peu de son appartement à Alep, ce périple d'un mois représente une aventure. Pour la première fois, elle se sent utile. L'anglais qu'elle a appris en regardant des jours et des vies est soudainement d'une grande aide. Interviewée tout au long du chemin, elle devient même une sorte de célébrité, étonnant les journalistes avec son rêve de devenir astronaute. Depuis qu'elle est arrivée en Allemagne en septembre 2015, Nujin va à l'école. Et ce, pour la première fois, elle s'est fait des amis et s'est mise au basket, en fauteuil roulant. Alors que la méfiance monte dans le pays envers les réfugiés, Nujin affirme que ce climat n'a pas changé sa haute opinion des Allemands. « Je peux comprendre pourquoi certaines personnes peuvent être effrayées », reconnaît-elle. « Les réfugiés devraient comprendre cela et respecter la culture et le mode de vie allemand. Nous sommes des invités et nous devons faire bonne impression. » Nujin, qui attend avec impatience la réponse pour sa demande d'asile, pressée de pouvoir rendre visite à ses parents. « Il faut être patient. C'est l'Allemagne. Vous devez suivre les règles à la lettre », dit-elle. Une comédie musicale qui donne des ailes au handicap, ça se passe en France, c'est présenté jusqu'au 8 janvier 2017 au Casino de Paris. Timéo, c'est la première comédie musicale qui ose parler du handicap, un spectacle haut en couleur à découvrir en famille. Mêler le handicap et la comédie musicale, le pari était osé, Alex Good l'a relevé. Timéo, c'est l'histoire d'un jeune homme en fauteuil roulant, bien décidé à aller au bout de son rêve et devenir acrobate dans un cirque. C'est une vision positive et décomplexée de la différence, avec pour principal message l'idée que tous les défis peuvent être relevés. Le spectacle se joue en ce moment même au Casino de Paris. Et pour incarner Timéo, le metteur en scène Alex Good a fait appel à deux comédiens en situation de handicap, Mathias Rommel et Benjamin Métro, qui se relaient au fil des soirées. Chaque jour, les répétitions permettent aux chanteurs et danseurs d'affiner leurs prestations, bien sûr, et Mathias doit aussi répéter sans cesse, notamment son numéro le plus technique du spectacle, l'envol dans les airs au-dessus de la piste aux étoiles. C'est du bonheur et de la liberté, dit-il. L'histoire de Timéo, c'est un peu celle de Mathias, celle d'un ado dont le destin a basculé par un joli coup de baguette magique. Et puis en rafale, la société Logique s'associe à Piéton Québec pour la campagne Tous Piétons en animant une marche dans les souliers de Daniel. Il s'agit d'explorer la ville en compagnie d'une personne ayant une limitation visuelle et d'expérimenter un parcours avec un bandeau et une canne blanche. C'est une promenade qui aura lieu ce mardi, donc demain, le mardi 25 à 16h30, autour des métros Mont-Royal et Laurier. Pour y participer, vous pouvez vous inscrire sur le site du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Rendez-vous sur le site canalm.vusevoix.com pour avoir toutes les informations sous la rubrique des paractualités. Ainsi s'achèvent les paractualités du jour en ce 24 octobre 2016. C'était Clotilde Seil au micro qui vous remercie d'avoir été là et remercie les membres de son équipe qui collaborent et qui travaillent fort pour ces paractualités au quotidien du lundi au jeudi de 11h30 à midi. Bonne journée à vous toutes et vous tous et à demain, 11h30.